Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le CQFR. On est là pour débriefer les deux matchs de playoffs qu'il y a eu la nuit dernière. Je suis rejoint par Shai comme tous les matins. Shai, pas une surprise qu'Antoine Pimel ne soit pas là ce matin. Pas une surprise que j'ai pris sa place. Victoire du Miami Heat 111-101 sur le parquet des Boston Celtics. Énorme surprise quand même, on ne va pas se cacher. Au-delà du résultat, c'est la manière parce que finalement, Miami a vite été dans le coup. Même si voilà, il y a eu des allers-retours au niveau du score un bon moment. Boston était pas, est même repassé devant un moment sur la fin du deuxième quart-temps, début du troisième. Et finalement, une fois que Miami a réussi à remettre la main sur le match en milieu de troisième quart-temps, derrière, ils sont restés devant jusqu'au bout avec une stat. Un stat record, je vais te laisser prendre la suite, Chai.
Ouais, stat record, c'est le nombre de paniers à 3 points marqués par le Heat, 23 dans ce match. C'est le record de la franchise, hein, pas all-time, mais battu de 3 unités. Leur précédent record, c'était 20 paniers à 3 points dans un match de playoff. Et là, 23, alors ça illustre la méthode avec laquelle Miami a réussi, ce qui est un coup incroyable. Moi, j'avoue que j'y. Enfin, même, on a beau tous les deux, depuis le début de la saison, dire vous inquiétez pas, ils seront là quand ça viendra et tout. On va pas se cacher qu'avec le forfait de Jimmy Butler, on n'était pas ultra optimiste face à Boston, qui est la meilleure équipe de la Ligue depuis le début de la saison. Mais donc ça illustre bien la méthode, c'est-à-dire que ça a défendu fort. On sait que Miami sait défendre fort, même sans Jimmy Butler. Mais ça a attaqué en shootant à vue, quoi. Shooter, 23 paniers à 3 points. Une adresse indécente. Antoine aime bien nous rappeler, et il a raison, hein, qu'il faut. Là où c'est compliqué pour Miami de reproduire le type de campagne qu'ils ont fait l'année dernière, c'est que l'année dernière, il y avait une adresse à 3 points qui était irrationnelle et qui n'était pas là forcément en saison régulière et qu'on a vu ensuite en playoff. Bah là, on a vu le Miami Heat de l'année dernière là-dessus, 53% à 3 points, 49% au global, donc c'est déjà aussi très bien. Et un super match de leur part. Bon, Boston a pas été, je trouve, je les ai trouvés pas bons. Ça, c'est. Il faut évidemment le souligner, mais c'est une victoire que Miami est allé chercher. Hein. J'avoue que je suis bluffé, je suis encore sous le choc du match parce que je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça.
Écoute, je vais commencer par un truc, parce que j'en parlais, je ne sais plus si c'était avec toi ou avec Pierre Armand, mais Eric Spoelstra est tout simplement, moi, le meilleur entraîneur que j'ai vu évoluer de toute ma vie. Enfin, franchement, tu sais, si tu me dis qu'il y a un match à gagner, je prends Eric Spoelstra devant n'importe qui d'autre. Moi, ce qui m'a plu dans la performance du Miami, de Miami, au-delà de l'adresse à 3 points, tu as raison de la souligner, qui est énorme, c'est la qualité du jeu, en fait. C'est la qualité du jeu offensif proposé. Alors, c'est vrai que c'était shooté à vue, mais c'était pas shooté en première intention. Il y a finalement même pas eu vraiment des passages parfois où il y a un joueur qui prend feu et qui enchaîne des tirs à 3 points. Duncan Robinson, qui est clairement leur meilleur shooter, le meilleur shooter de toute l'équipe, il fait pas un match extraordinaire, il finit à 2 sur 7 à 3 points. Mais par contre, le jeu offensif proposé par Miami, moi je l'ai trouvé remarquable de justesse et d'application. Et en fait, il y a un truc qui est fou, en fait, c'est que t'as l'impression, alors je sais pas, t'as peut-être des comparaisons dans le football, mais je vois ça parfois que t'es des combats de boxe ou de sport de combat où t'as l'impression que tu dis, mais personne n'a dit à lui qu'il avait aucune chance dans le combat, parce que là, il est en train de se battre comme si c'était lui le champion, en fait. Et Miami, t'as l'impression que c'est ça, quoi. T'sais, ils sont à Boston, ils en ont rien à foutre. Et franchement, si je pouvais avoir ne serait-ce qu'une journée dans ma vie, la confiance en moi de Caleb Martin, moi,
En plus,
c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je
en plus,
demande.
il était un peu ciblé, il était un peu critiqué avec le match 1 où il y avait la faute. Il était un peu dans l'œil du cyclone et il a fait un super match. Enfin, ils ont tous fait un super match, hein, mais t'as raison, Martin, il a cette confiance en lui. Il a cette confiance que développent les joueurs qui passent par le Heat. Je sais qu'on nous dit souvent, vous en faites trois caisses avec la Heat culture et machin. Est-ce que c'est vraiment un concept, tatata. Mais les mecs qui passent par là, c'est souvent des types qui. Qui comment dire qui étaient sur lesquels les gens comptaient pas particulièrement, c'était pas les superstars ni de leur QV de draft ni parfois des mecs draftés. Caleb Martin, voilà, il fait partie de ces gens-là. Là, on l'avait vu l'année dernière, sa campagne de playoff, c'était assez remarquable aussi. Et ça va avec toute cette équipe de Miami. Tu prends joueur par joueur, alors tu as des joueurs qui ont été dans des facs importantes, mais il n'y a pas de numéro un de draft. Il y a des premiers tours de temps en temps, mais tu prends Bam Adebayo, Tyler Herro. Il va falloir qu'on parle de Tyler Herro parce qu'il a fait un match toute la saison. On s'est demandé si comment ils allaient faire quand en situation de playoff avec Tyler Herro et Jimmy Butler. La question ne s'est pas posée malheureusement, mais le match que fait Tyler Herro sur l'adresse, 6 sur 11 à 3 points, 24 points, mais dans le playmaking. Je sais pas si t'as vu la séquence quand il rentre au vestiaire, ils sont contents et tout. Le premier truc que Spoelstra dit, il dit Tyler, t'as fait le meilleur match de ta vie au playmaking, t'as jamais été comme ça. C'est ce qu'on attendait de toi et il a fait un match. Franchement, il fait un match parfait. L'Aéro
Il
fait un
fait.
match parfait, à la passe, à la finition, 14 passes décisives.
Il fait un match, il fait un match excellent en fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est, tu vois, c'est un peu à l'image de ce qu'on disait du match du 8 en fait, c'est qu'il a pas non plus, il a pas pris feu en fait. Il a joué juste en fait. Il a joué juste et le 8 a vraiment joué juste comme ça tout du long à prendre les tirs à 3 points quand fallait les prendre, mais sinon chercher une autre solution. Il y a une situation où, notamment qui me revient en tête, où en deuxième mi-temps, Tyler Herro se retrouve avec la balle vient avec lui, il est en tête de raquette, enfin à 3 points dans l'axe, il fait une feinte, il fait sauter le défenseur, il prend un dribble, là il a un pull-up qui est juste là en fait. C'est vraiment dans son registre de jeu. Et en fait, du coin de l'œil, il voit Ice Smith qui est en train de se rapprocher du cercle, il lâche la balle parfaitement pour aller chercher le tir et mettre le dunk. En fait, s'il avait pris le tir, ça aurait été un bon tir. Il a trouvé un meilleur tir encore pour son équipe. Et j'ai l'impression que ça, c'était répercuté sur tous les joueurs de l'équipe. Il y a des moments où c'était Jaime Jaquez qui montait la balle. On sait que c'est pas son poste, en fait. C'est pas son poste, c'est pas sa force. Même à un moment, il perd un ou deux ballons. Mais par contre, il a suffisamment de jeu pour mettre en place, faire les premières passes. Et moi, la circulation de balle de Miami, je l'ai trouvée excellente. Et ouais, le plan de jeu exécute à merveille. Il y a une action que je les ai vus jouer. En fait, je les ai vus faire et je les avais déjà vus faire cette action. Je vais me permettre de te la décrire. Je la trouve vraiment, elle est à l'image, en fait, je trouve, de l'intelligence de jeu de cette équipe. On sait que Boston, il change sur tous les écrans. Mais pas Porzingis en fait. Porzingis, il joue en drop en fait. Et donc en fait, ils font une action pour Tyler Herro où ils vont jouer comme s'ils jouaient deux pick and roll de suite. Donc il y a un premier pick and roll de Caleb Martin pour Tyler Herro. Donc c'est Jason Tatum qui défend sur Caleb Martin. Donc Tatum s'apprête à changer pour prendre. Sauf que dans la foulée, il y a un deuxième pick de Bam Adebayo qui est légèrement plus bas et qui est défendu par Porzingis. Et Porzingis, il est en drop. Mais en fait, comme Adebayo vient porter le deuxième pick. Porzingis, au début de l'action, il est bien trop bas en fait. Il s'attend pas à devoir à devoir intervenir en fait, parce qu'il défend en drop, parce qu'il a la longueur de bras pour venir enfin perturber le tir quoi. Et en fait, comme il part de trop bas, Tyler Herro se retrouve avec un tir totalement ouvert. Il y a personne sur lui en fait pour défendre cette action-là. Et je les avais déjà vu jouer ça. J'avais déjà vu ça dans le match contre les Bulls là, qui gagnent pour se qualifier pour les playoffs. C'est juste un exemple en fait. C'est juste un exemple. Mais tu vois vraiment un plan de jeu qui est exécuté à merveille. Ça ne veut pas dire que Miami sera capable tous les matchs de répéter une telle performance dans l'adresse. Par contre, dans l'application défensive, dans l'application offensive, c'est des choses qui peuvent être répétées. L'an dernier, si tu te rappelles, Caleb Martin avait été le tueur de la série face à Boston. C'est une espèce de version moderne d'Andrew Toney, le Boston Slayer des Sixers.
Les Sixers,
Mais donc tu sais que le match 3, ils vont revenir à Miami. Alors autant, on va pas se cacher, l'avantage du terrain à Miami, il est relatif, parce que c'est quand même pas le public le plus chaud. Les mecs qui arrivent à la moitié du deuxième quart-temps repartent à la moitié du troisième, en gros, sauf si c'est serré. Mais par contre, en termes de confiance, cette équipe de Miami, elle va arriver. En fait, Jimmy Butler, pas Jimmy Butler, tu sais, on dirait t'es le même, je sais pas si tu vois, où tu vois Jokic avec un dourag et qui est là, ouais, t'es genre, avec une cigarette à la bouche, en gros, moi j'en ai rien à foutre. C'est un peu ça, quoi. Boston devra aller gagner les matchs.
C'est ça. Bon, alors ça même dans l'optique où Boston se qualifiait trop hyper facilement, enfin hyper facilement, genre sans perdre de match, parce qu'il y a quand même, je pense, beaucoup de gens dans leur braquette qui ont mis, à partir du moment où Butler était out, ils ont probablement mis un sweep vu ce que montrait Boston depuis le début de la saison. Mais on savait que Miami se battrait quoi qu'il arrive, même après le premier match raté. Par contre, enfin, je m'attendais pas à ce qu'ils réussissent aussi bien à exécuter le plan de jeu, à poser des problèmes à une équipe qui elle pour le coup a, parce qu'il faut parler aussi des Celtics, hein, je les ai trouvés décontenancés par ce qu'ils avaient en face, comme s'ils s'attendaient à ce que ce soit une promenade comme sur le premier match. Brown et Tatum mettent certes 51 points à eux deux, mais je les ai pas sentis non plus ultra bien quoi finalement.
Brown a eu un gros passage à la fin du deuxième quart-temps, là où il enchaîne 5 ou 7 points de suite. C'est lui qui permet quand même à Boston de repasser devant à ce moment-là.
D'ailleurs, Tatum en début de match aussi, hein, je crois qu'il met 14 points dans le premier quart-temps. Mais sur le fil du match, j'ai senti Miami vraiment en contrôle parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils essaieraient de. Que ça passe ou pas, ils allaient exécuter, ils allaient suivre ce que Spoelstra leur avait indiqué. Et alors, je te rejoins pour Spoelstra. Bon, je ne sais pas si j'irai, je suis moins versé dans l'analyse du coaching, mais c'est clairement un des meilleurs coachs sur les adaptations en cours de match, en cours de série. Ça se voit même sans rentrer dans le détail. De toute façon, à partir du moment où je comprends ce qui se passe, quand je vois la patte d'un coach sur une équipe et sur un match, Ah, c'est que le gars, il est quand même, tu vois, si le grand public arrive à le voir, c'est qu'il est vraiment, il est vraiment très très fort.
Ouais, non, donc belle performance de Miami. Encore une fois, une des grandes forces de Spoelstra, je trouve, c'est de mettre ses joueurs dans des positions. Il leur demande jamais de faire des choses qu'ils sont pas capables de faire, en fait. Et
Ouais.
finalement, quand on regarde, effectivement, on peut dire, bon, bah, l'adresse, elle est hors norme, l'adresse des joueurs du Heat sur ce match-là. Mais si tu regardes, finalement, sur les. Encore une fois, c'est pas un mec qui s'est mis à dribbler dans tous les sens, passer trois gars pour prendre un tir à trois points en déséquilibre. C'est vraiment des tirs relativement ouverts qui ont été générés par la belle attaque de Miami. Et après, voilà, on sait qu'une des forces de cet effectif de Miami, même s'il est très limité, c'est qu'il n'y a pas de mauvais joueurs, en fait. Et
Ouais.
même, tu sais, hier, on saluait l'impact défensif de Luka Doncic dans le match de Dallas. Là, Tyler Herro, c'était pas le même impact défensif. Par contre, moi, je l'ai trouvé bon, en fait, dans l'activité. Il a contesté des tirs. Même Boston n'a pas vraiment. A pas su systématiquement profiter des moments où il se retrouvait à switcher et se retrouver sur Porzingis. Parfois, il a fait des fautes, mais finalement, Boston n'a pas toujours réussi à exploiter ça. Voilà, c'est vraiment encore une fois, c'était un très beau match de basket disputé. Jusqu'au milieu du troisième quart-temps, c'est encore incertain. Mais je pense que voilà, Miami a, comment dire, a attiré l'attention de Boston. Maintenant, la balle est dans le camp de Boston, finalement, parce que
Oui.
Miami a repris l'avantage du terrain. Je pense que Boston a toujours, malgré tout, les armes pour passer Miami, surtout si Jimmy Butler revient pas. Par contre, je suis intéressé. Ce qui va m'intéresser de voir pour le prochain match, c'est si Boston attaque le match en se disant bon bah faut que nos stars en fassent encore plus, ou si ils vont réussir à remettre du liant, parce que j'ai trouvé qu'il y a quand même des moments où il y avait beaucoup d'un contre un quasiment en isolation du côté de Boston. Alors parfois peut-être que ça marchait, mais au bout du compte, au moment où il a fallu retrouver un petit peu de cohésion, c'est là que ça a calé du côté des Celtics.
Ouais, et puis pour finir peut-être dessus, pour aller dans le sens de ce que tu disais sur le côté, il n'y a que des bons joueurs et puis ils arrivent à impliquer tout le monde, il n'y a pas eu besoin d'une énorme performance d'un joueur en particulier. Tout le monde a marqué, à part Kevin Love qui n'a joué que 6 minutes, tous les joueurs utilisés par Spoelstra ont marqué. Les 5 titulaires ont marqué au moins 10 points. Nikola Jovic, dont on n'a pas parlé, mais qui était
Il était bon.
titulaire, il a été très bon. 11
Ouais.
points, 9 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 1 contre. Il est étonnant, il est vraiment, vraiment bon, tout en ne jouant que 25 minutes, hein. Ils ont tous contribué, voilà, à Smith aussi dont tu parlais. C'est pour ça, c'est pour ce genre de performance qu'on aime bien Miami. On ne dit pas que Boston ne va pas passer, ça reste quand même le plus probable parce que la force de frappe est tellement importante. Et puis maintenant, ils sont prévenus que Miami va pas leur laisser la série. Mais voilà, ça reste pendant qu'on peut, profitons de saluer la performance du Heat cette nuit.
Carrément. Écoute, allez, on va passer dans la conférence Ouest. Il y avait le match 2 de la série entre le Thunder et les Pelicans. Pour le coup, c'est un match bien moins serré. Victoire sans appel du Thunder 124-92. Je sais que tu as vu une bonne partie du match. Shai, qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là?
Bah, qui s'est passé à peu près ce qu'on avait dit l'autre jour après le game 1, c'est-à-dire qu'on avait trouvé. Alors, OKC avait eu des difficultés, les Pelicans avaient vraiment crânement joué leur chance et n'étaient pas passés si loin que ça de prendre le game 1. On avait dit que ça reste une équipe jeune et dont la plupart des joueurs découvraient les playoffs et que ce premier match servait un peu à prendre la température. Ils avaient quelques hésitations, un peu de timidité peut-être parfois. Là, ce deuxième match, maintenant que le premier est passé et qu'ils l'ont gagné dans la difficulté, ils ont déroulé. On a retrouvé le OKC conquérant, efficace, mature, qu'on avait vu toute la saison. On a revu Shai Gilgeous-Alexander en patron, en playmaker, 33 points. Il a été excellent. Et finalement, OKC a laissé aucune chance, je trouve, à New Orleans, parce qu'ils ont été sérieux des deux côtés du terrain, parce que tout le monde là aussi a été impliqué, et que les Pelicans, c'était trop trop juste. Il y a toujours pas Zion. Et puis si les autres osent pas significativement leur niveau de jeu, ça c'est pas possible contre une équipe qui est, en tout cas quand elle joue comme elle a joué tout au long de la saison régulière. Et défensivement, les Pelicans ont pas pesé. On sait qu'ils ont des atouts pour embêter n'importe quelle équipe. Mais OKC a shooté à 59%. Donc si tu te prends une équipe en face qui shoote à 59%, enfin, t'as aucune chance de faire quoi que ce soit finalement.
Ils étaient près du 50, du non du quoi du 60 50 90 là, tu sais, la stat, ils ont fini 60% au global, 48,3% à 3 points, 90% au lancer franc. Effectivement, on l'avait dit aussi au début de la série, si si les Pelicans voulaient pouvoir passer ce tour, ça passait par une défense de fer. Et là, dès le début, ils ont pris l'eau. 35, ils encaissent 35 points dans le premier carton. Le dernier carton, je pense, ils sont plus du tout. Ça se solde par un 32 à 18. Sans une défense de fer, s'ils sortent pas les barbelés, il n'y a aucune chance, je pense, pour cette équipe de New Orleans de pouvoir espérer quelque chose dans cette série.
Le premier match, ils avaient réussi cette bonne performance défensive, je trouve, hein. Là, c'était pas possible. Et c'est plutôt même OKC qui a montré de la force défensive en limitant les joueurs majeurs adverses. Ingram a fait un match très compliqué, 5 sur 17 au tir. Lou Dort a fait un excellent match défensif, justement, pour rester sur ce secteur-là. C'est un pléonasme, hein, Lou Dort qui fait un bon match défensif. Mais là, ça a vraiment eu de l'impact. Et puis tout le monde, voilà, tout le monde s'est vraiment mis dedans. Tu vois, je disais qu'il y avait des jeunes joueurs. Faut se rappeler qui a été un peu plus discret dans le premier match. Ça reste un rookie, même si même s'il était là l'année dernière et qu'il a pas joué, ça reste un rookie qui découvre ce niveau de compétition. Et là, sur le deuxième match, il fait 26 points à 9 sur 13 avec 7 rebonds, 2 contre. Il a été très très impliqué lui aussi. Et à l'image, alors c'est pas le même style de jeu que Miami, c'est pas le même profil de joueur, c'est pas le même adversaire non plus. Mais il y a ce côté où tout le monde est impliqué, où tous les titulaires ont marqué au moins. Alors là, c'est 13 points cette nuit. C'est Guidi qui met 13 points et jusqu'aux 33 points de Shea. C'est le Thunder qu'on a envie de voir. On n'a pas envie de les voir en mode équipe jeune qui a des doutes et qui découvre un peu le paysage. Là, c'est l'équipe qu'on a vue toute la saison et j'espère que ça va être comme ça sur la suite de la série.
Ouais, et puis je souligne aussi l'excellent match de Jalen Williams qui finit meilleur passeur du match, 21 points, 5 rebonds, 7 passes. Là aussi, est vraiment dans les clous sur sa. Il continue sur sa progression en fait, sur sa saison rookie magnifique. Ouais. Et puis il était, tu sais, dans le classement, les classements sortis. Sur lequel tu as fait un article, tu sais, l'espèce de sondage fait auprès des joueurs NBA par The Athletic, il figurait dans le classement là, des joueurs les plus sous-cotés de la ligue, je crois qu'il était deuxième ou troisième derrière Derrick White, si je ne me trompe pas, un truc dans le genre. Hein.
C'est toujours intéressant ce truc des sous-cotés, parce que c'est sous-coté pour qui, en fait, parce que je pense que tous les gens qui ont regardé la saison, et même l'année dernière, c'est un gars qui finit deuxième du classement du rookie de l'année, et cette année, alors peut-être que le très très grand public... et les médias type ESPN, donc ce qui est affilié grand public, peut-être qu'ils n'en parlent pas beaucoup, ils ne font pas beaucoup de segments pour parler de lui, ils ont plus parlé de Shea cette saison. Mais sinon, enfin, tous ceux qui ont regardé la saison du Thunder, qui est quand même du coup la meilleure équipe de l'Ouest, on voyait que c'était un joueur essentiel, et quand il a manqué des matchs, c'était compliqué pour OKC. Et c'est un joueur excellent, je ne sais pas quel est son plafond. C'est clairement un All-Star en puissance, ça fait aucun doute. Est-ce que c'est le genre d'option 1 bis ou est-ce que ça peut être un numéro 1 ailleurs, je sais pas, mais en deux saisons, l'espace de deux saisons, c'est déjà un joueur de très très haut niveau, je trouve, t'as raison.
Non, mais c'est juste, en fait, je pense que plus que sous-côté, c'est plutôt les joueurs dont on parle pas assez, quoi, ou du moins le grand public et les médias ne parlent pas assez, je pense que c'est ça.
C'est ça.
Allez, on va refermer là la page sur les matchs des playoffs. Je vous donne les affiches quand même de la nuit, de la nuit prochaine. Alors, attendez, hop, je me retrouve ma petite page. Voilà, donc ce soir, il y aura le prochain match entre les Cavaliers et le Magic. Match 3, Knicks-Sixers qui s'annonce électrique. Et match 3, décisif, déterminant entre les Nuggets et les Lakers. La série qui retourne à Los Angeles. Voilà, trois gros, gros matchs. Demain, on va se régaler pour débriefer tout ça. Il y avait aussi un trophée individuel qui a été remis hier. C'était celui du meilleur sixième homme de l'année. Et il y a une petite surprise, Shai.
Ouais, une bonne surprise, parce que si vous nous suivez depuis le début de la saison, on a souvent noté l'impact de Nasrid sur les Wolves, que ce soit en sortie de banc ou quand il était titulaire. Et c'est Nasrid qui a gagné, alors que je crois qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines, on tenait pour acquis le fait que Malik Monk serait sixième homme de l'année. Alors c'est peut-être parce que là, d'habitude, avant la remise des trophées, j'écoute beaucoup les podcasts de Zach Lowe, Bill Simmons et tout, qui eux ont généralement des votes. Alors pas Zach Lowe cette saison, mais ça permet de connaître la tendance sur qui va voter quoi et qui du coup va gagner. Je ne l'ai pas écouté cette saison, du coup j'étais assez persuadé que ce serait le schéma habituel du mec du plus gros scoreur en sortie de banc, en fait.
Ce qui est souvent le cas.
Voilà, le trophée Lou Williams, Jamal Crawford, c'est un peu ça. Et je ne dis pas que ce n'est pas un bon moyen de décerner ce trophée, hein, mais c'est juste que c'était un peu répétitif et que ça ne s'accompagnait pas forcément tout le temps de très bonnes performances. Malik Monk était dans une équipe qui a été jusqu'au play-in, qui est une bonne équipe. Donc je pensais qu'avec ses 15 points et 5 passes de moyenne, plus des coups de chaud qui ont un peu marqué les esprits, ça suffirait. Mais à deux voix près, à deux premières places de vote sur la première place, c'est Nasrid qui remporte ce trophée. Et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime bien qu'on récompense autre chose que le pur scoring. Il y a du scoring, il marque 13,5 points par match, mais il y a aussi du rebond, une panoplie très large des deux côtés du terrain aussi. C'est un joueur essentiel qu'ils ont re-signé pour un contrat qui, pour moi, est une super affaire pour eux, en tout cas. 41 millions sur 3 ans avec la dernière qui est liée à une player option. Et voilà, Reed, il a shooté. C'est un intérieur qui shoot à 41% à 3 points, qui a une palette offensive un peu variée. On l'a vu sur les premiers matchs aussi de ce premier tour, qui n'a que 24 ans et qui est tout simplement excellent. Donc ça me fait plaisir. Alors Malik Monk aurait sans doute mérité aussi, j'imagine que les fans des Kings sont un peu interloqués, mais voilà, moi ça m'a fait plaisir, ça a été une surprise et une bonne surprise.
Ouais, c'est intéressant de voir effectivement que, ce qui n'est pas toujours le cas, mais je pense que là effectivement le classement des Wolves a joué en la faveur de Reed. Voilà son impact dans une équipe qui a vraiment performé, alors que les Kings étaient quand même une des déceptions relatives du moins de la saison par rapport à ce qu'ils avaient montré l'an dernier. On pouvait espérer s'attendre à ce qu'ils passent un cap supplémentaire, ça n'a pas été le cas. Trophée largement mérité en tout cas pour Nasrid. C'est chouette, maintenant on verra si les Wolves récupéreront d'autres trophées individuels à suivre.
On l'espère. Il y en a un qu'on espère en tout cas. Ouais. Mais et pour le détail des votes, alors j'ai pas le tableau exact, mais juste pour préciser aux gens, du coup, Nasrid est premier devant Malik. Derrière, on a Bobby Portis. Donc il y a quand même deux intérieurs dans les trois premières places, ce qui est pas banal, ce qui est pas habituel. Le dernier intérieur qui avait gagné, c'était Montrezl Harrell, mais c'était là aussi une forme d'anomalie, parce que c'est souvent des arrières qu'ils gagnent. Et derrière, parmi les gens qui ont eu des voix, il y a eu Norman Powell et les deux Bogdanovic, notamment, qui ont eu des deuxièmes ou troisièmes places dans les votes.
Parfait. Bah écoute, Shai, je te propose qu'on se laisse là. On se retrouve demain pour un nouveau CQFR après une autre nuit de Playoff NBA qui s'annonce palpitante. Passez une bonne journée et on vous dit à très vite. Ciao.
Ciao.